Chapitre 9e. Malgré la menace que M. Leverrier lui avait faite de l'aller voir bientôt, Hélène respira lorsqu'elle se trouva dans la rue. Sans doute, cela était terrible pour elle de se rester sous cette menace, mais enfin, elle n'en était point surprise. Malpinson l'avait prévenue. En entrant chez le notaire, elle le craignait presque autant qu'en sortant de chez lui. Madame Leverrier pourrait-elle lui être utile? Elle n'en savait rien. Mais quoi qu'il advînt, elle ne pouvait pas ne pas être émue de l'initiative de cette pauvre femme opprimée et désespérée, qui certainement avait parlé bien plus dans un élan de générosité que dans une pensée de jalousie. Elle s'arrêta devant la porte du vicaire et tira le cordon de la sonnette. Bien que ce premier coup ainsi donné eût été assez fort pour être entendu de toute la maison, la porte ne s'ouvrit pas. Et cependant Hélène eut la sensation qu'un rideau de fenêtre avait été soulevé et que quelqu'un avait regardé à travers la vitre. Au bout d'un certain temps, elle sonna de nouveau, et cette fois un peu plus fort. Elle crut entendre un bruit de porte dans la maison, mais personne ne vint lui ouvrir. Elle sonna encore plus fort et plus longuement. Puis elle attendit, se demandant si réellement on ne voulait pas lui ouvrir ou bien si c'était une épreuve qu'on cherchait à lui imposer. Les gens qui passaient sur la place la regardaient, échangeant des sourires avec ceux qui étaient venus sur le seuil pour voir qui restait si longtemps à la porte du vicaire. À la fin, cette porte ne s'ouvrant pas, elle se décida à rentrer chez elle. Elle reviendrait le lendemain. En effet, le lendemain, elle sonna de nouveau à cette porte si bien fermée, se demandant si elle allait rester close volontairement comme la veille. Mais son incertitude ne fut pas longue. Presque aussitôt, la porte fut ouverte par une servante qui ne ressemblait en rien à la gouvernante du curé, aussi raide, aussi anguleuse, aussi jaune, aussi revêche, que la gouvernante de l'abbé Well était replète, rebondie, fleurie et avenante dans sa douce majesté. « Puis-je voir monsieur le vicaire ?»« Non, mademoiselle. » Hélène comprit que sa question avait été maladroite. Si elle avait demandé « Monsieur le vicaire est-il chez lui ?» Peut-être cette pieuse personne n'aurait-elle pas osé mentir. « Quand pourrais-je le voir ? Je ne sais pas. »« Quand reçoit-il ? Quand il est chez lui. »« Quand il est chez lui. » « Je ne sais pas, il n'a pas d'heure. J'en viendrai. » Cette fois, ce fut 3 jours après seulement qu'elle revint. Elle avait tout d'abord montré assez d'empressement pour avoir le droit d'attendre. La première école qu'elle avait faite lui avait servi. « Monsieur le vicaire est-il chez lui ? » dit-elle. « Oui, mademoiselle. Peut-il me recevoir ? Je vais le demander. » Elle laissa Hélène dans le vestibule, qui était aussi nu que celui du curé était encombré de choses utiles au bien-être de la vie. Chapeau de paille, lévite, canne, parapluie. Chez le vicaire, on ne voyait dans un coin qu'un bâton de coudrier coupé à une haie. Bientôt, la servante revint et introduisit Hélène dans une salle à manger presque aussi nue que l'entrée elle-même. Au milieu, une table en bois de sapin, blanchie au sable fin, 4 chaises en merisier foncé en paille, et sur la cheminée, pour tout ornement, une madone en plâtre doré. Le vicaire était assis à cette table sans nappe et achevait de dîner en mangeant des œufs brouillés dans une assiette en faïence brune. Sa fourchette était en étain, le verre dans lequel il buvait du cidre pâle en verre coulé. Grande était la différence entre cet intérieur austère et celui du curé, si confortable et si gai. Pas de tasse en argent, pas de bibliothèque, pas de journal, pas de coussin sous les pieds. Repoussant son assiette, le vicaire s'est élevé à moitié. Puis il s'était rassis en s'écartant un peu de la table, les yeux baissés. Pendant ce temps, Hélène, qui avait pris une chaise, expliqua qu'elle s'était déjà présentée plusieurs fois. Et sans la regarder, le vicaire l'écoutait en se rongeant les doigts. Sous ses fortes dents pointues et tranchantes, on entendait les ongles claquer. Tout à coup, il releva les yeux, et regardant Hélène en face avec une sorte de bravade, « Vous tenez donc bien à me voir ?» dit-il. « Je tenais à m'acquitter de mon devoir, » répondit-elle simplement. Il se fit un moment de silence, pendant lequel le vicaire se rongea les ongles encore plus fortement. « Alors, vous n'avez pas peur de la lutte ?»« Au contraire, très grande peur. »« Alors, comment venez-vous à Ivranche ?»« Parce que j'espère justement qu'il n'y aura pas de lutte. »« Vous comptez abandonner la place ?» Pas du tout. Elle répéta à l'abbé Périchard ce qu'elle avait déjà expliqué au curé et ce que celui-ci lui avait recommandé de redire à son vicaire. Pendant qu'elle parlait, le vicaire l'examinait à la dérobée, tantôt levant les yeux sur elle comme malgré lui, tantôt les tenant obstinément baissés par un effort évident de sa volonté. Hélène, qui parlait franchement, les yeux levés sur lui, était surprise des changements qu'elle voyait se succéder sur son visage, tout à coup rouge, tout à coup blême, qui trahissait ainsi une émotion violente dont elle ne comprenait pas la cause. Brusquement, il lui coupa la parole. « Ainsi, vous vous imaginez qu'on peut venir dans un pays jusque-là tranquille et heureux, s'établir dans une position consacrée par la justice et la tradition, chasser de chez elle de sainte fille, apporter dans ce pays le trouble et l'iniquité, se faire la complice des méchants ou des fous et dire « je ne veux pas la lutte ». Mais ce n'est pas moi qui ai créé cette situation, » dit Hélène, un moment interdite par cette véhémence. « Qu'importe si elle existe ?» Il importe beaucoup au point de vue de la responsabilité. N'êtes-vous pas l'instrument de ces méchants ou de ces fous, et n'est-ce pas sur vous qu'ils comptent pour la réalisation de leurs desseins pervers? L'instrument n'est pas la main. Cette contradiction parut exaspérer le vicaire. Les veines de son front se gonflèrent, et dans son visage rouge prirent une teinte noirâtre. L'instrument brisé, la main n'a plus la même puissance pour faire le mal, dit-il durement. Elle le remplace par un autre. On brise le second comme on a brisé le premier, le troisième comme le second, le quatrième comme le troisième. » Il avait jeté ces quelques mots sans la regarder, évitant de tourner la tête vers elle. « Et si cet instrument n'est point une chose inerte, en bois ou en fer, » dit-elle doucement, « s'il a une âme qui peut souffrir et se désespérer ?» Le vicaire ne répondit rien, et il tint ses yeux obstinément fixés sur le carreau de sa salle à manger. Mais aux ondes de sang qui alternativement gonflaient et déprimaient les veines de son front, il était facile de suivre les mouvements de son agitation. « Je suis cet instrument, monsieur le vicaire, » continua Hélène, « cet instrument sensible, et je ne peux pas croire qu'en cherchant à me faire souffrir volontairement, quand moi, de mon côté, je ne chercherai qu'à vivre en paix avec tout le monde, en respectant les idées, les croyances, les droits de chacun. C'est en agissant ainsi que j'espère pouvoir éviter la lutte. » Elle parlait doucement, non en suppliante, mais avec une fermeté calme, en femme convaincue de la justice de sa cause. Ce n'était pas seulement par la beauté de ses traits que cette belle fille exerçait une influence séductrice sur ceux qui la voyaient, c'était aussi par le charme de sa voix et la musique de son accent. À mesure qu'elle parlait, l'abbé Pierre-Richard avait relevé la tête et attachant ses yeux sur elle, il restait ainsi, penché en avant, les lèvres entr'ouvertes, dans l'attitude d'une muette contemplation. Elle poursuivit. « Et pourquoi engagerait-on la lutte contre moi ? Pour me faire partir. J'admets qu'on réussisse, quoique je sois d'avance résigné à supporter bien des choses. On me chasse ou je pars. Cela fera-t-il que le conseil municipal reviendra sur son vote ? Moi ou une autre, qu'importe ?» Elle s'arrêta, croyant qu'il allait répondre, mais il ne dit rien. Seulement, à l'expression de son visage adouci, attendri, elle crut qu'elle l'avait touché. Ce n'était plus le même homme, ce n'était plus les mêmes regards. Encouragée par le succès qu'elle obtenait, elle continua. « Qui peut savoir ce que serait celle qui me remplacerait? Arriverait-elle, disposée comme moi, à éviter tout ce qui pourrait provoquer la lutte? Serait-elle prête à tout pour rétablir la paix, en voyant comment on m'aurait traité? Ne voudrait-elle pas prendre une voie autre que celle que j'aurais suivie? Ne l'y pousserait-on pas? Ce sont là des considérations que votre esprit de justice ne peut pas ne pas peser. Ajouterai-je un mot personnel? Vous dirai-je que ce n'est pas volontairement, de gaieté de cœur, que j'ai accepté Ivranche, malgré les dangers qu'il présentait, que je suis orpheline, que je suis le soutien d'une grand-mère qui n'a que moi. » Le vicaire ne répondit pas. Pendant quelques secondes, il resta les yeux plongés dans ceux d'Hélène, puis tout à coup, au moment même où elle s'imaginait avoir vaincu, il les baissa. Il s'établit un silence, mais il dura peu. Brusquement, l'abbé Pierre-Richard se leva. « Non, mademoiselle, non » s'écria-t-il violemment, sans la regarder. « Je ne me laisserai pas toucher par vos sophismes coupables, non. Je ne me laisserai pas séduire. Votre présence à Ivranche est dangereuse, dangereuse pour tous. Je ferai tout pour vous obliger à quitter notre paroisse. Vous entendez tout. Je vous en préviens ouvertement, en face. » « Mais, monsieur le vicaire !» Marchant sur elle, il lui coupa la parole. Elle s'est élevée, et elle avait reculé instinctivement, ne comprenant rien à cet accès de violence éclatant ainsi tout à coup sans raison. Sans l'approcher, mais marchant toujours sur elle, il la poussa ainsi jusqu'à la porte du vestibule. « Adieu, mademoiselle !» Et il lui ferma la porte sur les talons.